l'histoire d'un village, Terrac, une émission proposée par Nathalie Mandirac avec Gabriel Couder. Gabriel Couder vit à Terrac, petit village paisible de 180 habitants sur le canton de la Salvetat-Peyralès. Monsieur Couder a 85 ans. Il est natif du pays, de Camelsba exactement. Il était paysan, son grand-père avant lui était paysan et tisserand. Il se souvient de la vie d'autrefois, nous parle de ce qui a profondément changé la vie à la campagne. L'arrivée de l'électricité, les moyens de transport, les fêtes, l'école, les commerçants et artisans. Il nous replonge dans l'effervescence d'alors.
L'électricité a été terminée à Terrac en 1931. Parce que je suis allé en cherchant des papiers, j'ai retrouvé le bail. Et nous, on avait 10 lampes, une casserole calor pour chauffer l'eau et un fer à repasser. C'était extraordinaire. Seulement ça a fait un grand changement dans la commune parce que l'entrepreneur de Vatage qui faisait tourner la batteuse avec la machine à vapeur, a acheté un moteur électrique et la batteuse tournait avec le moteur électrique. Et les agriculteurs n'avaient plus besoin d'amener de l'eau, du charbon, pour faire tourner la batteuse. Et c'était un danger de moins de mettre le feu. Les communes environnantes encore battaient le blé avec une chaudière.
Donc finalement, Terrac a été quand même assez privilégié par rapport à d'autres communes environnantes.
Non, parce qu'il était allé tout avant. Il était enclavé, il ne pouvait pas aller à Castelmarie. Il n'y avait pas de route. Pour aller à Saint-Dota, il fallait aller passer par la route du port de la Vesse.
Et après, sur Pradinas, tout ça,
et bien, il y avait un chemin.
Sur Yopérou, c'était un chemin.
Un chemin, oui. Pour aller à Nocère, la route a été faite, je ne sais pas en quelle année. Il n'y avait qu'un vieux chemin. Même le pont de Villelongue a été construit, il n'est pas tellement vieux. Si on parle, parce qu'en parlant, il est un vieux, il faut parler en centenaire. Castelmarie, le pont de Castelmarie, date de 1850 par là.
Et c'est les habitants de Terrac qui ont demandé ce pont pour pouvoir...
Et pour pouvoir aller vers leur commune. Et oui, parce que Terrac, c'est la commune de Castelmarie. C'était la commune de Lavergne-Terrac. Castelmarie, c'était une baronnie avant la Révolution. Et d'ailleurs, ça appartenait à l'évêché de Rodez.
Et alors, oui. Finalement, pour en revenir à la modernisation, c'est vrai que c'était.
Ce qui a changé la commune, c'est surtout quand il y a eu l'électricité. Et puis, les gens de Terrac, Bousquet de la Rode, avaient acheté deux camions de la guerre de 14. Seulement, il allait à Carmont à peu près tous les jours.
Ça, c'était à quelle période?
Après la guerre de 14. Il y avait un autre transporteur, Mazars de la Rode, Delmas à Terrac, dans les années 29-30.
Donc, ça permettait quand même de se faire approvisionner,
vendre
et d'acheter...
C'était qu'à Terrac, il y avait trois épiceries. On y trouvait le strict minimum, c'est-à-dire le sel, le poivre, le macaroni,
le sucre,
l'huile. Il n'y avait pas de boulanger, on faisait le pain. Sur la paroisse de Terrac, il y avait le moulin de la Valette, le moulin de la Gourpe, le moulin du Lior. Il y avait trois moulins. Et maintenant, sur la commune de Terrac, il reste que le moulin de la Galie.
Et là, qu'est-ce qu'il faisait dans ce moulin?
De la farine.
De la farine, c'est tout?
De la farine et l'huile.
Et les châtaignes, en fait, elles ne se commercialisaient pas? Ça servait juste
si.
pour nourrir les cochons?
Si, la châtaigne était commercialisée. Mais la châtaigne, c'était même un produit tout à fait vital. La preuve, il y avait des chéchoirs à châtaigne. Il y en avait partout, même dans les châtaigneries.
Dans les bois, on en voit souvent?
Oui, pour conserver la châtaigne. On les mangeait, les châtaignes.
Bah oui, j'imagine.
Même chèche, on les faisait gonfler à l'eau. ou alors de la farine, elle est passée au moulin.
Enfin, il me semble que pendant quand même longtemps, les gens, c'était un petit peu la nourriture de base
oui.
Des paysans, quoi.
Oui.
Non ?
Mais c'était plus tôt, oui.
C'était encore plus tôt ?
Oui.
Avant la Révolution ?
Avant la Révolution, peut-être même après. Parce qu'après la Révolution, il y a eu des crises. Parce que les terres ne se cultivaient pas comme maintenant. Il n'y avait pas la pomme de terre, elle est venue que juste avant la Révolution, du temps de Louis XVI.
Donc c'est assez récent finalement, l'élevage, la pomme de terre, etc.
Oui.
La production d'aujourd'hui, c'est quand même récent.
Si on veut.
Disons que les fermes étaient petites et...
Il y avait des petites fermes et des grandes fermes. Oui, il y avait la grande ferme, le domaine, où les petits allaient travailler. Parce qu'il y avait beaucoup de domestiques et de servantes. Et les petites fermes, c'était les ouvriers, qui étaient tout aussi bien charrons, couvreurs, maçons, menuisiers.
Ils avaient deux...
Et si peu qu'ils aient un petit lopin de terre, ils le travaillaient pour avoir leur potager.
Et sur Taïrac, il y en avait des grosses fermes ?
Oui. Il y avait Reynard-Camarette, Rivière-la-Rose, Crozes-Calmel, Pouffignard. Il y avait des domestiques et des paires de bœufs pour travailler. Les autres travaillaient avec une vache. Et oui.
Parce que vous me disiez que vous étiez paysan, mais à la base, vous aviez un autre... Enfin, la famille avait un autre métier.
Et mon père était menuisier. Mon grand-père était tisserand.
Sur Taïrac ?
Et à Calmels.
Et il tissait la toile de lin, non ?
Je peux te faire voir encore du tissu.
Il va chercher.
Attends, il va propre.
Non, mais on voit très bien le grain.
Ici, il y avait des coins qu'ils appelaient les chênes verrés. Ils faisaient le chambre au bord des ruisseaux.
Ouais.
Il y en avait d'autres qui faisaient du lin. Avec la graine, ils en faisaient de l'huile qu'ils donnaient au bétail ou le grain. Mm. Et la tige, ils en faisaient du fil. Alors le lin était plus noir, le chanvre était un peu plus blanc.
D'accord.
Et mon grand-père, encore, il faisait ça, il avait le métier. Il faisait de la toile, il la vendait. Et c'est ce qu'il y avait.
Il y avait un sabotier aussi, non ?
Ah oui, il y avait le sabotier, oui.
À Taïrac.
Le sabotier était la maison des Anglais, là-haut. Là, le sabotier, Pierre Freycinet, louait la maison à Marty. La maison était à Marty. Ce Marty était forgeron. Moi, je l'ai connu. Son fils, aîné, Auguste, a été forgeron à Taïrac, à la maison de Médal. Il y avait un tailleur de tissu au Mandelpuès, Cher. Il y avait tous les métiers à Taïrac.
Et Noé Delmas, il faisait coiffeur, non ? J'ai entendu.
Il y avait des coiffeurs un peu partout. C'était...
Tout le monde se faisait coiffeur ?
Mais non. Chacun se coupait les cheveux comme il pouvait. Avant lui, il y en avait un autre qu'on appelait Van Compel, qui faisait coiffeur.
Ouais.
Mais il n'était pas coiffeur. Il était un peu plus doué.
Il coupait les cheveux, quoi.
Il coupait les cheveux. Et il n'était pas coiffeur, il était chauffeur. Le dimanche, il coupait les cheveux. Et là où tu dis qu'il y avait Noé qui avait un atelier, non. Là, c'était un cordonnier, qu'on appelait Croustil.
Et vous savez à peu près combien il y avait d'habitants
à Taïrac
ouais.
Le calendrier emportait 300.
En quelle année ?
Oh, jusqu'en parlant en 50.
En fait, c'est vrai que les gens ils se suffisaient dans le village.
Mais oui.
On se suffisait pour tous les...
Oui. Il n'y avait pas de marchand
de... besoins de la...
Il n'y avait pas de marchand de tissu ici. Mais après, il y avait à peu près tout. Il y avait le curé pour les enterrer et pour les baptiser quand ils naissaient. Mais le curé, il avait une vache, une bretonne. Il faisait son fromage. Oui, il avait même des poules et des oies. Que sa bonne Clotilde engraissait. Avec le blé qu'on lectait pour les 13 messes.
Qu'est-ce que c'est ça ? Les 13 messes.
C'était les messes pour le bien de la terre. Les gens à Taïrac étaient très pieux, mais ça se faisait, je crois, à peu près partout. Et il était obligé de dire 13 messes dans l'année pour le blé et tous les biens de la terre. Le jour de Saint-Blaise, c'était un peu le veto dans les pays Saint-Blaise pour que les animaux ne soient pas malades. Et encore, à Saint-Geniez-d'Olde, il y a une vieille habitude qui n'est pas perdue, qui se faisait à Teilhac aussi. Après les fêtes de la Toussaint, les gens apportaient soit du blé, soit des châtaignes, soit des poules. Ils faisaient la criée au sortir de la messe. Et alors ils achetaient ça, et c'était pour le curé ou les biens de la terre, ou pour le repos des pauvres âmes. C'est que je ne te raconte pas les blagues. Et alors, j'étais enfant de cœur avec le curé Pons, et à toutes les fêtes, on allait amener le bon Dieu à tous les malades de la paroisse. Et quand on partait, un devant l'autre derrière, il ne fallait pas parler. Moi, j'apportais la lampe pour faire lumière au bon Dieu. Et le curé suivait derrière avec le Jésus. Quand il arrivait à la maison, je ne sais pas, il disait prière, il fallait faire le repos. Et le curé allait confesser le bonhomme ou la bonne femme. Voilà. Puis, si les gens étaient bien, ils nous payaient un coup à voir et on repartait. Et oui.
Et ça existait, les pèlerinages ici ? Les processions, les choses comme
oui,
ça.
Oui, tous les dimanches matin.
Il n'y avait pas une qui se passait plus une fois par an pour Pâques ou pour...
Non, tous les dimanches matin, on faisait le tour de la place. Et je portais la bannière.
À une époque, oui.
Bon, après, il y avait les rogations. On faisait les processions 3 jours de la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, une fois sur le chemin de la planquette. Qu'est-ce que tu crois qu'ils chantaient ? Ora pro nobis, possidio te rogamus audinos. Ça c'est latin, hein? Seulement, il y en a qui se trompaient. Pour dire, ouais, te vous savez, un bios. Et là, c'est pas toi.
Et ça voulait dire quoi?
Je trimballais une pioche. Nous, on allait à la messe, le curé, le matin, ou quand on allait au catéchisme, c'était une rengaine. Il disait les prières. Alors, il y avait les litanies de la Sainte Vierge étaient plus courtes. Mais la litanie de l'autre litanie, avec tous les saints, il n'en finissait jamais. Alors, quand il commençait Saint-Paul, Saint-Jean, Saint-Jacques, Saint-Tu, chaque fois, il fallait dire prier pour nous. Qu'est-ce que c'est qu'on répondait, tu sais?
Non.
Pico patarou.
Et alors, ça veut dire quoi?
Pico patarou. C'est occitan, ça.
Oui, et ça veut dire quoi, alors?
Coupe de pommes de terre. Tu sais, quand tu coupes les pommes de terre en carré,
ouais.
En patois, ça veut dire les piquer.
Oui.
Alors, les gens, pico patanou. Pico patanou, pico patanou, pico patanou. Et quand le curé s'en apercevait, qu'est-ce que tu veux? C'était ça. Et à cette époque-là, quand j'étais jeune, tous les dimanches, il fallait aller à la messe. C'était pas une corvée, que c'était le moment de se retrouver. Les hommes allaient à la messe, surtout au café. C'était une autre distraction, c'était un moment convivial. Il fallait qu'il y ait et le café et la messe. Le café pour les hommes, la messe pour les femmes. Et les enfants. Mais le soir, les enfants, on avait vêpres. Et on y allait là, la jeunesse, pour se retrouver. Pour voir si les filles avaient un beau chapeau. À chaque période, il y a eu ses joies, ses peines. Puis il y avait autre chose. Les enfants aujourd'hui, vous les envoyez à l'école. Hein? À l'école, ils font un peu le fou. Si les étudiants sont trop sévères, les enfants et les parents se mettent contre. Nous, à notre époque, on avait une autre manière. Quand on allait à l'école, si les étudiants ou les étudiantes étaient trop embêtantes, on faisait l'école bisonnière. Et moi, je l'ai fait une fois, mais je ne l'ai pas fait deux fois. Ah non, même on ne m'a pas puni. On m'a dit, puisque tu veux pas aller à l'école, demain tu viens avec moi, je réglerai les choux, m'a dit mon père. Et puisque tu veux pas aller à l'école, c'est tout réglé. Lui, il ne travaillait pas trop la terre, parce qu'il n'avait pas le temps, il était menuisier. Il avait un carré de choux dans un champ, et il y avait de l'herbe. Il m'a dit, demain tu viens avec moi, on ira se régler les choux. Et il m'avait donné un outil esprit à ma taille, quoi. Même bien manché, il y avait mon manche. On a été faire clair le chou. Seulement il faisait chaud à midi, moi j'avais mal. À midi, je mangeais la soupe, il m'a dit comment tu veux faire. Alors il m'a dit, je crois qu'il vaut mieux que tu ailles faire la sieste. Oui, et on reviendra au chou. Et le lendemain, il m'a dit, quand on fait maintenant, j'ai dit, je vais à l'école.
Ça vous a fait réfléchir.
Oui, j'ai dit, mais on va à l'école. Il n'y a pas 50 solutions. Et alors, il y avait deux classes.
Les grands et les petits.
Oui, jusqu'au certificat. Il faut penser qu'à cette époque-là, il fallait pas mélanger les garçons et les filles. C'est ce qui a envoyé les filles à l'école laïque. Ils étaient excommuniés. Eh oui.
Mais là-haut, c'était mixte aussi.
Après, rien qu'après la guerre, quand il y a eu, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, il y a eu un contrat. Il a fallu que les bonnes sœurs se mettent en civil. Et après, elles ont été autorisées. Il y a eu un contrat avec l'État. Mais autrement, il y a là-haut, ils ne prenaient pas les garçons.
C'était une école de filles à la base.
Une école de filles.
D'accord.
À Téhérac, il y avait deux garçons qui y allaient. C'était deux neveux de la directrice, Anastasie. Et à l'école d'en bas, il y avait des filles, il y en avait cinq ou six, et les parents étaient excommuniés. Oui.
C'était comme ça
à l'époque. Oui. L'église était sectaire, c'était ça. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de ça. Mm. La guerre, c'était une guerre de religion. Et oui, je peux te raconter une anecdote là-dessus, qui s'est passée à Téhérac. Mmh. Une fois par an, le curé faisait l'adoration, qu'on appelle, c'est-à-dire une grande fête religieuse. Et ça se faisait dans toute la paroisse. Le curé invitait tous les curés des environs. Alors il disait de la messe, les gens allaient à la messe, et puis il faisait un gros veloton, évidemment, comme il doit se faire, et des grandes vêpres. Alors il chantait à celui qui pouvait chanter le plus fort. Si c'était un jour d'école, on n'allait pas à l'école. C'était sacré, ça. L'instituteur de Téhérac, il s'embêtait, il n'avait personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur la place, c'était un bon bourre. Alors il dit, putain, qu'est-ce qu'il y a comme cul blanc à Téhérac? Parce qu'il y avait les culs blancs et les culs rouges. Et alors lui dit, écoute, fais descendre les pantalons, toi aussi tu as le cul blanc. Seulement, il y a eu une plainte. Eh bien, ils l'ont fait déménager. À la nouvelle, il n'était plus à Téhérac. Ah. Il était à Béteille. Et après, on a eu deux demoiselles.
Et les veillées, ça se passait comment? Les veillées,
ça se passait comment? Les veillées se passaient...
À Calmels, vous les faisiez entre familles ou
non,
plutôt en famille?
Non, des fois.
Avec les voisins?
Des fois, on jouait aux cartes. Des fois, oui.
Des paniers.
Des paniers, surtout, on était...
Vous faisiez des paniers?
Oui, toutes les familles faisaient des paniers. Il fallait des paniers.
Il fallait toujours des paniers pour mettre des choses dedans.
Il fallait des paniers pour ramasser des pierres dans les champs, des paniers pour ramasser des patates, des paniers pour ramasser des châtaignes. Il en fallait pour vendanger, il fallait des paniers.
Oui, oui,
ou des corbeilles, on faisait.
Un osier.
De l'osier, oui. Oui, on faisait ça. La vie la plus dure à cette époque-là, c'était pas la vie des hommes, c'était la vie des femmes. La lessive, ils n'avaient pas de machine à laver. Elles s'occupaient des cochons. Il fallait qu'ils aillent dans les champs. Ils faisaient la bouffe. Le jardin, souvent.
La volaille.
La volaille, oui. Et le gavet.
Puis les enfants s'occupaient.
Les enfants, oui. Mais il fallait laver les langes. L'hiver, devant le feu, c'était les langes des enfants qui séchaient. Eh oui.
Et oui, il n'y avait pas les couches plastiques.
Et c'était dur pour les femmes. Quand elles allaient laver l'hiver dans les viviers, l'eau était gelée. Et les servantes qui étaient dans les fermes, des fois, elles ne mangeaient pas la même table que le patron.
Elles mangeaient après?
Je ne sais pas comment. Oui, mais elles mangeaient après ou à côté. Souvent, la femme mangeait debout. Donc, tu ne l'as pas connu ça. Non, mais écoute, moi je ne l'ai pas connu, mais il y en a quand même qui le faisaient de notre époque. C'était incroyable la misère.
La vie n'était pas facile dans nos campagnes, surtout pour les femmes. Mais toutes les occasions étaient bonnes pour rigoler un peu et se distraire. C'était Histoire d'un village, Terrac, avec Gabriel Couder, une émission proposée par Nathalie Mandirac.